IDFM Radio 98 FM.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, votre radio d'Île-de-France en Val-d'Oise, à écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur appli Android. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bilan d'étape et futurs projets. Aujourd'hui, mardi 2 juillet, l'économie en direct consacre ses 90 minutes à la ville de Deuil-la-Barre, une ville qui se veut inclusive dans un cadre de vie apaisant, ce que nous allons démontrer tout au long de l'émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame le maire Muriel Scolan. Bonjour Madame.
Bonjour Madame Voraz.
Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci. Également vice-présidente de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée et vice-présidente du département du Val-d'Oise. À vos côtés, Madame Petitpas. Bonjour Madame.
Bonjour.
Vous êtes adjointe au maire délégué à la jeunesse, au sport, aux associations, à l'habitat et au logement. Merci d'être présente dans nos studios.
C'est avec plaisir que j'assiste à votre émission. Merci.
C'est partagé. À vos côtés, monsieur Alain Chabanel. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes adjoint au maire délégué à l'environnement, à la transition écologique et aux travaux. Merci pour votre présence.
Merci de votre accueil.
Et également avec nous, monsieur Bertrand Dufoyer, que j'appelle Bertrand, mais peut-être qu'on pourra s'appeler par nos prénoms si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc bonjour Bertrand.
Bonjour Jacqueline.
Vous êtes adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires scolaires depuis 2020 et depuis 2014 conseiller délégué et conseiller communautaire. Et je suis ravie de vous accueillir ce matin pour cette spéciale ville de Deuil-la-Barre.
Et je suis ravie d'être avec vous, Jacqueline.
Merci Bertrand.
IDFM Radio, 98 FM.
Bienvenue à tous les quatre et merci de participer à cette émission en direct sur IDFM Radio. Alors, Madame le maire Muriel Scolan, on a dit qu'on s'appelait par nos prénoms,
oui,
donc Muriel.
Merci.
J'avais
merci Jacqueline.
Je vous en prie. J'avais eu le plaisir de vous recevoir lors de votre candidature à votre réélection au municipal de 2020. Une réélection qui, nous avons su, s'est faite avec évidence. Alors qu'en 2014, je crois qu'au départ, vous ne visiez qu'un seul mandat.
C'est vrai. C'est vrai. On a eu effectivement un premier mandat qui était un peu frustrant parce que malheureusement, on a découvert une situation au niveau des finances qui n'était pas très glorieuse. Mmh. Et on a, justement avec Bertrand, réussi à remettre sur les rails cette collectivité territoriale. Mais par contre, par rapport à notre projet initial, il a été difficile d'avancer aussi loin que
vous
l'espérait.
Oui.
Voilà. Et donc, le deuxième mandat est arrivé pour justement réaliser nos projets, même s'ils ont été un petit peu amendés, parce qu'on a vu 6 ans plus tard les choses parfois un peu autrement. Mm-hmm. Voilà. Et donc, voilà le pourquoi du deuxième mandat.
Très bien. Alors avec nous ce matin pour faire un bilan de ces 10 années à la tête de cette ville de Deuil-la-Barre, dont je sais que vous l'affectionnez particulièrement. Déjà, Deuil-la-Barre, c'est combien d'habitants, Madame, Muriel? Je vais avoir du
mal. Il n'y a pas de souci. C'est la première des choses que j'ai dit d'ailleurs aux habitants quand j'ai été élue. Comment est-ce qu'on vous appelle? Et j'ai répondu, je m'appelle Muriel Scolan. Ça n'a pas changé. Donc, vous voyez.
Très bien.
Il n'y a aucun problème. Du coup, j'ai oublié la question.
Donc, combien d'habitants à Deuil?
Environ 22 300 habitants, mais ça change tous les jours.
Oui.
Voilà. Donc on fait quelque chose d'approximatif.
Ça change voilà. dans la progression.
Pas énormément, pas d'accord. Tant que ça finalement. Il y a des entrées, des sorties. Faut bien aussi avoir en tête que finalement les habitants aujourd'hui, pour différentes raisons, ne restent plus aussi longtemps qu'ils ne restaient dans le passé, dans la commune d'origine. Voilà, souvent le travail,
oui,
d'autres impératifs qui font qu'ils quittent. Par contre, lorsqu'ils y sont, ils aiment y rester. Mais ça arrive au moment de la retraite que certains partent oui, effectivement en province aussi. Donc, il y a des flux finalement très sortis. Et les constructions sont pas si importantes que cela. Donc, on est à peu près stabilisé aujourd'hui.
D'accord. Voilà. Alors, en 2014, vous disiez déjà qu'il fallait remettre l'humain au centre de votre projet et que si le maire est un bâtisseur, c'en est fini de l'époque où l'on peut diriger une ville tout seul sans respecter ses collègues du conseil municipal. Mmh. C'était une...
Me reconnais tout à fait dans les propos. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, en tout cas, ces propos-là sont toujours d'actualité.
Oui.
Effectivement, nous, on a justement monté notre équipe dès 2014, non pas sur des aspects politiques-politiciennes, mais politiques de la cité, en regroupant des personnes qui ont des qualités différentes, complémentaires souvent, avec des compétences complémentaires. Et ce qui nous rassemble, c'est d'être utile pour la commune et d'avoir bâti ce projet ensemble. C'est ce projet-là qui nous tient et je pense que personne ne l'a oublié. Et ça, c'est très important.
Bien sûr.
Et au deuxième mandat, on a quand même eu un flux de nouveaux qui sont arrivés, qui sont assez vite rentrés dans ce moule, ce qui est quand même intéressant de souligner.
Oui, voilà. Oui. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous féliciter d'avoir réalisé 80% du programme fixé au départ. C'est très positif.
Oui.
Peut-être que c'est une des raisons qui ont contribué justement à votre élection en 2020.
Écoutez, il y a que les habitants qui pourraient répondre vraiment tout à fait à cette question. En tout cas, nous, on a présenté un projet en 2020. Les élections ont été longues et pénibles parce que, rappelez-vous, on était pendant la période du Covid, donc c'était quand même une période difficile à gérer pour les maires. Et finalement, le programme qui nous paraissait ambitieux, on l'a réalisé petit à petit et on s'aperçoit que on a bien progressé même sur des sujets qui dataient. Je pense particulièrement au pôle sécurité, qui était un projet historique pour la commune. Et puis la fermeture du passage à niveau, qui a été un gros point dur sur notre commune.
Voilà. Bien sûr, on y reviendra plus en détail peu après. Alors aujourd'hui, donc j'ai présenté en préambule votre ville comme une ville qui se veut inclusive dans un cadre de vie apaisant. Oui. Connaissez-vous les priorités de vos administrés et quel avenir pour eux aujourd'hui ?
Alors les priorités des habitants, c'est justement de trouver un cadre de vie agréable, avec des possibilités de se déplacer facilement pour aller travailler. Donc on a la chance à Deuil-la-Barre, quel que soit l'endroit où on habite, à être à moins de 10 minutes à pied d'une gare qui nous mène sur Paris. Donc ça, c'est quand
précieux,
même une grosse plus-value. On a un certain nombre de Parisiens qui sont venus après Covid, justement, parce qu'on est encore une ville verte et on continue à la bâtir ville verte.
Et puis proche de Paris.
Et puis proche de Paris, voilà. Donc en fait, ce sont deux arguments qui militent vers venir à Deuil. Et puis finalement aussi, des prix au mètre carré qui sont quand même inférieurs à ceux de Montmorency ou d'Anguin.
Oui, bien sûr.
Tout en étant tout proche de ces lieux un peu phares où on y trouve à la fois la forêt, le lac, enfin des espaces agréables. Voilà.
Alors, je sais que ça vous tient à cœur. C'est la volonté d'aller toujours plus loin dans l'insertion professionnelle et puis dans l'inclusion. Développer le bien vivre ensemble, favoriser les centres intergénérationnels, aider dans la parentalité. Voilà, je sais que vous essayez d'être sur tous les fronts. Est-ce que vous nous en dites un mot?
Oui, en fait, je suis profondément animée par le respect de l'autre. Et ça, c'est pas forcément évident. Et amener les personnes à se respecter, ça passe par le faire avec. Parce qu'en faisant avec, on s'apprécie et on se regarde autrement. Voilà. Et donc, tout consiste justement en organisons des manifestations qui sont dédiées aux familles, Là, on est en train aussi de construire un centre social où, juste à côté, dans le même bâtiment, il y aura un accueil jeune pour travailler sur la parentalité et que les jeunes et leurs parents se regardent dans d'autres circonstances et que le dialogue parfois se reconstruise. Donc tout ça, ça fait partie du vivre ensemble au niveau de la cellule familiale. Et puis au-delà de la cellule familiale, c'est comment je vis avec mes voisins, comment je vis avec des gens des autres quartiers. Donc c'est un travail que j'avais déjà mis en place au moment de l'opération de renouvellement urbain. Oui. Puisqu'en fait, j'ai dû, sur le quartier de la Galatée, m'occuper de l'aspect humain de cette restructuration. Et donc, forcément, ça passe par ce lien social. On a relogé les habitants dans tous les quartiers de la ville. C'est comment j'accepte des habitants qui viennent d'un autre quartier et comment moi, qui viens d'un autre quartier, je vais pouvoir être inclus. Vous voyez, donc cette réciprocité-là a déjà été travaillée. Oui. Oui. Et on en voit les plus-values.
Bien sûr.
C'est pas facile, mais on y arrive.
Oui. Et donc vous avez des des retours de la part de vos administrés.
Oui. Alors oui. Enfin, le retour, il se fait de lui-même parce que quand les gens se croisent dans la rue et se font des sourires et finalement se retrouvent à la sortie de l'école, parce que ça passe aussi par la scolarisation des enfants dans les établissements scolaires de proximité. Donc cette mixité, elle se fait de fait. Et c'est comme ça, je pense, qu'on apprend à vivre ensemble. Alors la ville inclusive, agrège tous ces paramètres finalement. C'est l'inclusion, c'est pas que le handicap, contrairement à ce qu'on pense en première lecture. C'est aussi, vous l'avez dit, l'insertion sociale et professionnelle, des plus jeunes comme des plus âgés. Quand on a un travail, tout va mieux. Voilà, donc ça, c'est tout simple, vous savez, je pense que c'est le bon sens.
C'est ça, c'est le bon sens qui prime.
C'est ça.
Complètement, on est bien d'accord. Merci madame, merci Muriel. Je vous propose qu'on fasse une pause et puis on se retrouve juste après.
Merci.
Tout de suite.
À toi la fille qui me rend si dur et si tendre. J'aime parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, la lame trempée dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Tu me demandes comment ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va comme ci comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Tous les jours, je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre quand on me la rende. Mon bonheur. Comment ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va comme ci comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger moi le naufragé sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse. Je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va sur ma planète. Je vous répondrai ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête.
comme ça. Les bières et vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Personne qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va.
C'est l'économie en direct et ce matin, c'est une spéciale ville de deuil la barre avec à mes côtés quatre personnes du conseil municipal, dont Madame Muriel Scollan, le maire, vice-présidente de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée et vice-présidente du département du Val-d'Oise, Madame Petitpas, adjointe au maire déléguée à la jeunesse, au sport, aux associations, à l'habitat et au logement, Monsieur Alain Chabanel, adjoint au maire délégué à l'environnement, à la transition écologique et aux travaux, et Monsieur Bertrand Dufoyer, adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires scolaires. Alors, Madame Scollan, vous disiez que dans l'inclusion, il n'y a pas que le handicap, mais le handicap en fait partie. Et je sais que vous avez à cœur de mettre votre ville aux normes. Récemment, une manifestation très très colorée, très gaie a eu lieu le 8 juin, la Color Run, soutenue par le Lions Club. Donc, je vous laisse nous expliquer ce pan de votre commune.
Donc les clubs services comme le Lions Club ou le Rotary Club sont dans des démarches de servir justement, oui, les habitants. Et donc un des Lions Club de la région est venu nous rencontrer et, parce que nous avons cette étiquette aujourd'hui de ville inclusive. Ça fait partie eux aussi, les Lions Club, vous savez, c'est la canne blanche, c'est tout ce qui touche autour des personnes cécités. Nous ont proposé d'organiser avec nous une color run. C'est quelque chose d'un peu nouveau, on va dire, et on a tout de suite adhéré au projet dans la mesure où c'est aussi tourné vers des personnes plus jeunes qui ont adhéré au projet. On a eu pas mal de monde.
En effet, oui. Oui, moi j'étais, il y avait beaucoup de jeunes d'ailleurs.
C'est ça, c'est vrai. Ça.
Et donc, vous-même, vous avez participé.
Oui, j'ai couru,
à
oui.
La... Bravo.
Avec ma petite fille, oui, voilà, oui. Qui était très, très gentille, qui m'a accompagnée. Mais bon, c'était très gai aussi. Les gens étaient heureux, c'est ce qu'on aime en fait. C'est cet intergénérationnel finalement qui fait que les gens, encore une fois, c'est une façon de vivre ensemble aussi, avec des personnes qui étaient porteurs de handicap. Il y avait aussi des personnes en fauteuil. Nous avons sur la commune plusieurs résidences qui accueillent des personnes porteurs de handicap ou qui vivent dans les résidences. Et donc, on les avait associées, pardon.
C'est ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'il faut vraiment rendre hommage à vous parler des fauteuils roulants, mais donc ces personnes étaient poussées par une autre personne et c'était pas simple. Hein, donc j'ai vu, donc vraiment, je voulais leur rendre hommage parce que c'est une belle Enfin, c'est vraiment un don de soi, hein, dans
ça,
ce cas-là.
C'est tout à fait ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Parmi les, donc on parle toujours de fractures. Votre souci aussi, c'est d'éviter la fracture numérique.
Oui.
Et pour ça, vous organisez des stages.
Oui.
Grands-parents, petits-enfants. Donc
c'est
une belle idée aussi.
Oui, encore une manière de créer des ponts entre les générations. Et cette fois-ci, c'est les enfants qu'apprennent nos grands-parents. Donc c'est réciproque d'une certaine façon.
Complètement.
En fait, la fracture numérique a été un sujet à deuil depuis les années 2000. Puisque on a inauguré une structure qui s'appelle le C2I, Centre d'information et d'initiation, qui était dédié déjà aux nouvelles technologies dans le quartier qui était en ZUS à l'époque.
D'accord.
Parce que nous avions perçu que finalement le numérique allait entrer dans nos vies et que sans doute les personnes les plus éloignées finalement de financièrement même de l'achat d'un ordinateur à l'époque souvenez-vous c'était quand même assez onéreux.
C'était une somme, oui.
Voilà, donc en fait on a ouvert une structure où il y avait une quinzaine d'ordinateurs qui étaient mis en place. Ça a servi à la fois pour les habitants, mais aussi pour les enseignants qui n'étaient pas formés par l'éducation nationale à l'époque. Et donc, on a formé nos enseignants de proximité pour qu'ils puissent inclure le plus tôt possible dans leur enseignement, finalement, les nouvelles technologies.
Donc, voilà. Vous étiez en avance sur votre temps du numérique. Alors, le numérique, c'est la fibre, hein, pour
oui,
que
aujourd'hui.
Ça marche bien. Et à cette occasion, vous avez eu la... le bonheur de recevoir Madame Marina Ferrari, qui est venue constater cette installation à Deuil-la-Barre.
Tout à fait. Alors, vous savez que le département a été un peu pionnier par rapport à l'installation de la fibre. Alors c'est bien, mais à la fois on a essuyé aussi quelques plâtres, c'est-à-dire que on observe aujourd'hui pas mal de dysfonctionnements. Puisqu'on est en avance, donc on est les premiers aussi à observer les dysfonctionnements qui sont assez nombreux finalement. On voulait, pour encore une fois faire avancer et que Madame le secrétaire d'État soit en capacité de mesurer les faits sur une commune, lui montrer la plus-value, mais aussi les difficultés. Voilà. Donc, elle est venue, on a ouvert des armoires et elle a vu à l'intérieur comment c'était distribué. Alors, l'armoire qu'on a ouverte était bien distribuée, mais par contre, on s'aperçoit que dans d'autres armoires, comme c'est accessible à tout le monde, eh bien, écoutez, il y a des personnes qui retirent, qui c'est remettent. Et bon, c'est un peu la loi de la jungle par rapport à ça, faut dire la vérité. Ce qui fait que ça crée beaucoup de désordre, notamment pour les habitants qui travaillent parfois sur les ordinateurs à la maison. C'est courant maintenant. Et en fait, ne plus pouvoir se connecter, c'est un vrai souci pour ces personnes-là.
Et il n'y aurait pas une solution pour éviter ce vandalisme, parce qu'on peut, le mot est là.
Oui. Alors, les difficultés viennent du fait que les armoires appartiennent pas du tout à la ville. La ville, en fait, n'est propriétaire de rien dans cette affaire. Alors évidemment, l'habitant se retourne vers la proximité, vers le maire. On essaie de mettre en place des procédures, d'être innovant pour faire en sorte que ces armoires ne puissent être ouvertes qu'à bon escient. On a des difficultés parce que chez nous, les armoires appartiennent à SFR et que SFR a même mis un recours contre nous parce qu'ils estiment qu'on n'est pas propriétaire et que donc on n'a pas à faire de l'ingérence, voyez. Donc c'est compliqué.
C'est compliqué,
c'est très compliqué.
Parce que d'un côté, vous voulez éviter ce genre de problème. J'ignorais que les opérateurs pouvaient être contre vos décisions.
Mais c'est même pas un recours gracieux en plus. Donc voilà.
Et donc une personne comme Marina Ferrari, ministre déléguée au numérique, qu'est-ce qu'elle peut dire de, parce que je crois qu'elle avait l'intention d'avoir une action auprès des opérateurs.
C'est ça. D'ailleurs, lorsqu'elle est venue, tous les opérateurs étaient autour de la table. Donc ça, c'était bien parce que ça a permis au moins d'avoir tous les interlocuteurs.
Bien sûr.
Ils ont fait des promesses. Personnellement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons donné l'ensemble des arrêtés que la ville a prises pour qu'elle ait connaissance aussi des dispositifs qu'on propose, encore une fois, qu'on propose pour essayer d'améliorer la situation. Aujourd'hui, pas de retour.
Vous, votre but, c'est pas d'embêter l'opérateur, c'est de faire que vos administrés soient plus confortables possible.
C'est ça. C'est tout simple, en fait. C'est plus compliqué après.
C'est plus compliqué qu'on ne croit. Oui. Merci infiniment Muriel Scolan pour ce témoignage. On va vous redonner la parole un peu plus loin, mais là je vous propose de marquer une pause avec Françoise Hardy et mon amie La Rose et on se retrouve tout de suite après.
On est bien peu de choses et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de jardin. On met bien peu de choses et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Vous êtes bien sur IDFM Radio dans l'économie en direct avec aujourd'hui un dossier spécial d'Oeil-la-Barre et le bilan plus les futurs projets de son maire et son équipe. Avec moi dans le studio, Madame le maire, Muriel Scolan, également vice-présidente de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée et vice-présidente du département du Val-d'Oise, Madame Dominique Petitpas, adjointe au maire délégué à la jeunesse, au sport, aux associations, à l'habitat et au logement, Monsieur Alain Chabanel, adjoint au maire délégué à l'environnement, à la transition écologique et aux travaux, et Monsieur Bertrand Dufoyer, adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires scolaires. On a vraiment la tête de la ville de Deuil là, hein, dans le studio de IDFM. Madame Petitpas, alors nous avons vu avec Muriel Scolan que combien développer le bien vivre ensemble et favoriser des centres intergénérationnels était important, une tâche qui vous incombe en partie de par votre mandat.
Tout à fait. Donc, c'est vrai que j'ai la charge depuis quelques mandats, particulièrement de la jeunesse et des sports, hein, que nous faisons évoluer au fur et à mesure de ces années sur la pratique de nouveaux sports, ce qui concerne les sports, et puis aussi améliorer les équipements, offrir le plus de nouveautés à nos Deuillois. Par exemple, des équipements libres dans la ville pour pratiquer le sport, ce qui rejoint un peu le sport, oui, santé, donc c'est très important. Et puis la jeunesse aussi, avec la pratique des vacances, avec beaucoup d'offres de stages différents, puisqu'on s'aperçoit que les enfants maintenant aiment découvrir beaucoup de choses. Et puis aussi des amplitudes horaires différentes par rapport au travail, que leurs parents, enfin, ont des amplitudes horaires aussi, travaillent, oui, très grandes. Mmh. Et donc nous essayons d'accompagner au mieux les parents sur notre ville. Voilà.
Donc les sports qui ont été inaugurés récemment, quels sont-ils ?
Les nouveaux équipements, oui, sportifs, nous avons inauguré ces dernières années sur une extension d'un gymnase, une salle de gymnastique, un mur d'escalade, une salle de danse, donc vraiment des équipements qui sont à la pointe du progrès, et les associations sont très très heureuses de pouvoir en profiter le soir à partir de 17h bien évidemment, et dans la journée ce sont nos lycéens qui en profitent tout à
très
fait.
Oui. Alors vous là, bon, votre dans votre mandat il y a aussi la gestion des associations, c'est très lié, hein, avec ce dont vous venez de nous parler. Je voudrais qu'on dise un mot. Je sais que vous êtes attaché toujours dans cette idée de l'inclusion. Vous êtes attaché à pouvoir venir en aide à des femmes qui sont en difficulté. Et je crois qu'à ce sujet, vous avez un projet aussi.
Alors, nous avons un projet au niveau de l'habitat,
oui,
de pouvoir accueillir dans un lieu dédié aux femmes qui sont... ou bien victimes de violences conjugales, ou alors qui se retrouvent seules avec, oui, des enfants d'un instant de la vie qui peut être difficile à franchir. Donc nous allons essayer de les accompagner au mieux en leur proposant un logement avec un suivi social. Surtout, c'est important parce qu'il ne suffit pas de mettre des personnes en difficulté dans un logement, mais il y a un suivi social à leur apporter, oui, et c'est ce que nous attachons avec Madame le maire de faire.
Et donc, c'est un projet qui doit voir le jour bientôt.
Prochainement, oui, je pense en début d'année prochaine, ce sont des réhabilitations de logements. Et lorsque ces réhabilitations seront terminées, nous pourrons accueillir ces personnes.
Voilà. Vous pensez pouvoir accueillir combien de personnes? Vous avez une idée?
Dans un premier temps, il y a une dizaine de logements qui seront prêts. Et puis, nous allons faire évoluer cet accueil.
Pour plus tard. Très bien.
Et aussi, il y aura une maison qui permettra d'accueillir aussi ce qu'on appelle des personnes qui sont en grande difficulté, qui pourraient venir ce qu'on appelle tout bêtement de la rue,
oui.
qui n'ont pas de moyens d'être logés ailleurs. Donc une pension de famille.
D'accord.
Qui va voir le jour très prochainement. Les travaux viennent de démarrer et dans cette pension de famille, il y aura à peu près 28 logements, je crois, précisément. Nous accueillerons des personnes qui seront aussi, elles, suivies aussi par des assistantes sociales et des personnes dédiées tout au long de la journée pour les aider à retrouver un travail, se réadapter à la vie, ou si ce sont des personnes qui sont à l'âge de la retraite et qui ne travailleront plus, bien évidemment, qui seront accompagnées peut-être pour recréer du lien avec la famille, puisqu'il y a des gens qui sont malheureusement isolés.
Ouais. Voilà. Oui, et pouvoir peut-être repartir d'un meilleur pied.
Exactement.
Exactement. Oui, parce que le but, ce n'est pas de garder ces personnes à demeure, c'est en fait de vraiment leur donner une nouvelle chance.
Tout à fait, oui. Ouais,
très bien.
Merci.
Alors, Madame Petitpas, il y a un sujet important qui va bientôt arriver à Deuil, enfin dans tout le Val d'Oise d'ailleurs, c'est le passage de la flamme. Est-ce que c'est une vraie chance? Est-ce que c'est compliqué? Dites-nous tout.
Ah, c'est une vraie chance. Cette date du 19 juillet, oui. Où il y aura donc la flamme qui va traverser le Val d'Oise, c'est une chance qu'on a du mal encore à estimer, puisque ça fait déjà 100 ans que nous avons accueilli la flamme et depuis nous l'avons pas vue en France. Donc je crois pour les Deuillois et pour les Val-d'Oisiens et toute l'Île-de-France, ça va être vraiment des moments magnifiques à vivre. Et nous nous attachons à la ville de Deuil de pouvoir le faire vivre au mieux à nos Deuillois. Donc ce 19 juillet, à partir de 11h, sur le stade intercommunal Deuil-Anguin, nous allons créer de nombreuses manifestations sportives et non sportives, aussi culturelles. Et toute cette journée sera animée par Stella Carpenter, qui est une présentatrice nationale de grands événements sportifs.
D'accord.
Comme le Vendée Globe, le Tour de France. Donc elle va pouvoir faire vivre cette journée au mieux à tous nos Deuillois.
Très bien. Voilà. Donc Stella Carpenter, que vous avez contactée et qui a accepté immédiatement.
Oui, oui. Nous l'avons rencontrée au conseil départemental lorsqu'elle nous a présenté les 8 segments de traversée de la flamme sur le département. Et nous lui avons fait part des manifestation que nous souhaitions mettre en place sur le stade ce jour-là. Elle a été vraiment ravie de pouvoir les mettre en valeur avec nous et elle a accepté ce challenge.
Aussitôt. Alors, parmi les animations qui vont avoir lieu à partir de 11h, j'ai noté que vous aviez un défilé en lien avec le lycée professionnel de la mode d'Hermont.
Oui.
Pour mettre en parallèle la mode et le sport.
Oui, nous avons rencontré ce lycée des arts de la mode à une exposition un forum qui avait été organisé sur zéro déchet, puisque ces jeunes filles avaient créé des robes avec des bouteilles plastiques, du papier. Donc toutes ces robes étaient créées avec des D'accord. matières recyclées et j'avais trouvé très intéressant leur travail et en parlant avec leurs professeurs, nous sommes arrivés à parler du sport et comme elles ont un grand projet à présenter par an, j'aurais dit, écoutez, je pense que le projet de notre flamme olympique le 19 juillet peut faire partie de ce, et elles ont dit OK. Donc elles vont elles nous ont déjà présenté un petit aperçu de ce qu'elles ont créé avec des tenues qui se rapportent aux couleurs des anneaux olympiques, avec des tenues bleu blanc rouge aussi, sportives, non sportives. Vraiment, elles ont fait beaucoup d'efforts, elles ont présenté ces modèles pour leur examen, tant le CAP que le bac professionnel, et elles ont été très bien notées.
Elles n'ont pas manqué de créativité.
Exactement.
Donc oui, ça va être intéressant. La difficulté, c'est que comme cette flamme, elle passe aussi à Enghien, je ne sais pas si on va pouvoir être et sur Deuil et sur Enghien avec tous les événements. Il va falloir choisir.
C'est le stade de Enghien.
C'est ça. Oui. C'est ça. Une autre animation, un village culinaire.
Un village culinaire, nous avons voulu, avec nos associations locales, pouvoir représenter la cuisine des 5 continents.
D'accord.
Donc, nous avons une association où des Sri Lankais qui sont présentés qui généralement travaillent plus autour de la danse et du chant et de l'expression corporelle, vont là nous présenter les produits donc du Sri Lanka. Nous avons aussi...
Il va y avoir du curry dans l'air.
Exactement. une association portugaise, l'association Cordas et Tradição, qui vont nous faire aussi goûter aux produits du Portugal. Il va y avoir les burgers américains. Enfin, on va vraiment voyager toute la journée à travers cette cuisine qui, en fin de compte, je crois, toujours un lieu où tout le monde se retrouve autour d'un plat, et c'est le partage. Voilà.
Madame Petitpas, je vous propose qu'on fasse une courte pause et puis on va parler aussi de sécurité parce que la flamme, c'est aussi peut-être un casse-tête au niveau de la sécurité. Donc, à tout de suite.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct avec notre spécial Deuil la barre et je suis en train d'interviewer Madame Dominique Petitpas qui nous parle de la flamme, du passage de la flamme à Deuil et une vraie chance, nous dit Madame Petitpas. On vient de découvrir les activités, mais donc cette flamme nécessite une sécurité importante. Donc je vous en laisse nous en dire quelques mots, Madame Petitpas.
Alors cette sécurité déjà passe par un barriérage de cette grand axe de l'avenue de la division Leclerc, puisque nous allons y poser 1000 barrières.
D'accord, oui, donc c'est pas rien.
Ce n'est pas rien. Nous avons
aussi... Vous les avez trouvées?
On les a louées, oui.
Oui, ça y est.
Parce que la ville de Deuil n'avait pas 1000 barrières, évidemment. Et les autres villes du Val d'Oise où il y a aussi la flamme qui passe, elles étaient aussi prioritaires. Donc nous avons été obligés de nous orienter différemment. Mais le point le plus important, c'est que le passage de nos porteurs de flamme soit sécurisé à 100%. Nous avons aussi les scouts de France qui sont à Deuil vont nous aider en nous mettant à disposition 60 personnes qui vont aussi être là pour justement assurer une sécurité au croisement de cette avenue puisqu'il y a des petits trucs qui coupent. Nous avons aussi mis en place tout un système auprès de nos commerçants qui sont sur cette avenue, de les prévenir que ça va être un petit peu une journée particulière, compliquée pour eux.
Bien sûr, oui.
Pour aussi tout bêtement le ramassage des ordures la veille. Enfin, tout va être, voulez, chamboulé. Ça va être un grand chamboulement ce 19 juillet. Ouais. Une très grande organisation et les services municipaux, tant la police municipale que les services techniques, que les services sportifs, sont toutes les 15 jours en préfecture ou au département pour suivre justement l'évolution de la mise en place de la sécurité de cette journée.
Visiblement, vous semblez prêt.
Ah mais on est prêt. Ça y est, elle peut passer demain, on est prêt.
Formidable. Madame Scolan, vous voulez ajouter quelque chose à tout ce dispositif?
Non, je voudrais juste remercier la présidente, Madame Kaveki, du département, qui a fait le choix justement de petits parcours à différents endroits du département pour que tous les Val-d'Oisiens puissent avoir à proximité la possibilité d'en profiter. C'est pas le choix de tous les départements. Et je tiens à souligner que, ben, en fait, elle a aussi cette vue d'être utile pour les Valdoisiens et de leur offrir, en tout cas, la possibilité de voir cette flamme. Mmh. Voilà.
Et avez-vous des retours, Madame Petitpas, avez-vous des retours des administrés par rapport à ce passage de la flamme?
Oui, ils sont vraiment ravis de pouvoir participer à cette journée. Nous avons eu dernièrement la fête des sports, hein, et nous avons pu échanger avec eux parce que à cette fête des sports, nous avions mis en place de nouvelles attractions comme une vague de surf, une tour d'escalade, le breakdance, hein, et ils nous demandaient pourquoi avez-vous mis ça, parce que on leur a dit que c'était les nouveaux sports qui étaient pratiqués pour donc ces Jeux Olympiques, et ils sont vraiment très contents de pouvoir pratiquer ces nouveaux sports et puis participer aussi à cette journée, puisque nous referons l'initiation à ces nouveaux sports sur notre plaine de sport.
Et alors, ce passage de la flamme, ça va provoquer un focus particulier, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la presse. Enfin, vous allez être pointé du doigt.
Oui, toutes les grandes chaînes télévisées, nous pouvons voir justement le soir quelques reportages. Et là, elles seront présentes sur le stade pour commenter le départ de la flamme, puisque, comme le disait Madame le maire tout à l'heure, la flamme partira, le huitième segment de la journée partira de la ville de Deuil-la-Barre.
Voilà,
la ville d'Anguin.
Toutes ces animations mises en place.
Toutes ces animations, traverser la ville d'Anguin et d'autres villes, et puis pour arriver à l'hippodrome Soisy-Anguin, où là nous aurons une représentante de la ville de Deuil-la-Barre qui s'appelle Brigitte Benon et qui est la première championne du monde d'escrime, et qui fera partie de la haie d'honneur de ce chaudron où sera allumée la flamme.
Très bien.
Donc nous sommes fiers d'avoir une deuilloise à cette manifestation.
Très bien. Bah, écoutez, merci infiniment. Merci Madame Petitpas pour votre enthousiasme à défendre ainsi toutes vos actions et puis plus particulièrement la flamme. Et on a hâte d'y être, hein, du coup, pour voir tout ce qui va se passer. Je vous propose une nouvelle pause avec un peu de musique et puis on va parler, parce que l'inclusion, c'est aussi l'environnement, la transition écologique et puis les travaux. Donc l'occasion de donner la parole à Monsieur Chabanel dans quelques instants. À tout de suite.
Ton cœur, je l'emporterai loin d'ici, dans une vie meilleure. Je ne laisserai plus personne voler ton bonheur. Je dessinerai le soleil sur tes joues, j'effacerai les bleus de ton cou. Dans cette vie, tu n'auras plus peur. À quoi bon tous ces cris? Pourquoi rester ici? Est-ce comme ça que les gens s'aiment? Y'a plus de place pour ma haine, mon enfance sale et étroite. Tout mon cœur crie je t'aime, mais le monde ne l'entend pas. Y'a plus de place pour ta peine, viens, tu t'emmènes avec moi. J'ai beau hurler en silence, et pourtant tu restes là. Maman, je voulais être docteur, mais je suis devenue flic. Pour leur faire peur à tous ces voleurs de vie et de douceur. Je me revois les yeux fermés à chercher le sommeil. J'en voulais au monde entier de le laisser faire. Moi je rêvais même de lui rendre l'appareil. À quoi bon tous ces cris? Pourquoi rester ici? Est-ce comme ça que les gens s'aiment? Y'a plus de place pour ma haine. Mon enfance sale et étroite. Tout mon cœur crie je t'aime, mais le monde ne l'entend pas. Y'a plus de place pour ta peine, viens, tu t'emmènes avec moi. J'ai beau hurler en silence, et pourtant tu restes là. Y'a plus de place pour ma haine. Plus de place. plus de place pour ta peine. Non, tout ça, c'est derrière toi. Maintenant, je peux partir. Moi, je serai toujours là.
C'est l'économie en direct et ce matin, spécial Deuil la barre avec à mes côtés Madame le maire Muriel Scollan, qui est également vice-présidente de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée et vice-présidente du département du Val-d'Oise, Madame Dominique Petitpas, adjointe au maire délégué à la jeunesse, au sport, aux associations, à l'habitat et au logement, Monsieur Alain Chabanel, adjoint au maire délégué à l'environnement, à la transition écologique et aux travaux, et Monsieur Bertrand Dufoyer, adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires scolaires. Madame Petitpas, juste avant de donner la parole à Monsieur Chabanel, je crois que vous avez une annonce aussi à nous faire à propos des Jeux paralympiques.
Oui, je vous remercie de pouvoir parler de cette journée particulière qui est le 8 septembre, qui sera donc la clôture des Jeux paralympiques. Et la préfecture de région a nommé la ville de Deuil-la-Barre comme ville phare au niveau de notre engagement sur l'engagement et favoriser aussi la pratique des sports pour les personnes porteurs de handicap au sein de nos associations sportives locales, puisque nous avons été la première ville à signer avec le département une charte pour justement mettre en valeur cette pratique du sport pour les personnes porteurs de handicap. Donc cette journée du 8 septembre, nous l'avons presque finalisée, je vais dire, et elle sera donc ponctuée d'animations avec juste les associations qui accueillent à ce jour des personnes porteurs de handicap. Il y aura des ateliers qui seront là, il y aura des conférences qui vont être faites dans la journée. Et le soir, nous pourrons retransmettre sur la ville donc la clôture international de Jeux paralympiques.
Donc
toute une fête va être aussi...
C'est presque une boucle qui se boucle, hein, puisque entre le départ de la flamme et puis cette fermeture, bravo
pour... Exactement.
C'est très bien pensé. Ben, félicitations à nouveau.
Merci beaucoup.
Merci Madame Petitpas. Alors, ce bien vivre ensemble, cette inclusion, c'est autant de projets associés forcément à l'importance de la nature en pleine ville. Et c'est là où vous intervenez, Monsieur Chabanel, dans ces projets.
Oui, merci. Effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale de la ville. Je crois que c'est la marque de fabrique un peu de l'équipe municipale actuelle.
On l'a bien compris, oui.
Hein, effectivement, ne pas regarder par le petit bout de la lorgnette, mais avoir une vision globale. Et alors, aujourd'hui, je dirais que l'environnement, on sent bien que c'est moins une préoccupation directe des parties des gens, parce que ils sont confrontés à des situations où il faut boucler les fins de mois, et quelquefois c'est évidemment un sujet qui peut paraître passer un petit peu en arrière-plan. Mais nous, notre devoir à nous, c'est de continuer, de persévérer dans des actions qui ont été entreprises depuis pas mal d'années et qui se sont accélérées depuis notamment 2 ans. Pour tout à la fois améliorer le cadre de vie, mais aussi arriver à préserver cet environnement par des actions diverses, à favoriser la biodiversité. On a effectivement replanté un certain nombre de... beaucoup de plantations avec des plantes mellifères qui favorisent bien sûr la vie des abeilles notamment, mais pas que. Lutter contre les îlots de chaleur, parce qu'il y a à la fois cette problématique du climat il faut avoir des parades contre le climat, mais il faut aussi avoir des actions qui permettent justement d'améliorer cette situation climatique. Et la plantation d'arbres, qui est assez importante, permet à terme de capter du CO2. Donc c'est un ensemble qui permet à terme d'arriver petit à petit. On ne dit pas qu'on a tout fait. On n'est pas.
Mais en tout cas, vous y réfléchissez.
Pas du tout cela. Mais on est sur un chemin. Je crois qu'il faut continuer, persévérer, et on met les moyens pour ça.
Je suis surprise que vous disiez que l'environnement passe un peu au second plan, parce que je trouve au contraire que on en parle tellement aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de réflexes
par rapport à ce respect de l'environnement.
C'est vrai. Bien sûr qu'il commence à y avoir des habitudes qui se créent, etc. Mais je disais que c'est effectivement quelquefois, et on le voit dans les programmes électoraux, c'est pas toujours aujourd'hui ce qui est mis en priorité.
Je comprends.
Et nous, notre devoir, c'est de continuer, c'est de persévérer. On est sur une ligne qu'il faut absolument tenir.
Donc vous y attelez sûrement comment?
Oui, c'est une conviction en tout cas.
Très bien.
Et on peut plus maintenant ignorer le réchauffement climatique. Je crois que nier ça, c'est une erreur.
Alors ce qui dans les projets qui vont passer aussi à deuil, il y a cette coulée verte dont on parle beaucoup depuis, qui va être à la fois sur Enghien, mais aussi je pense sur deuil. Ça fait partie de cette volonté.
Alors c'est pas la coulée verte, on vient d'inaugurer un deuxième tronçon au mois de mai.
Oui.
Et on a modifié le premier tronçon, donc on a maintenant 400 mètres de linéaire de piste cyclable. C'est à la fois un axe de circulation, bien sûr, douce.
Circulation douce, oui.
Mais aussi, ça permet de relier les équipements entre eux, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les collégiens qui sont outillés peuvent aller effectivement facilement aux équipements sportifs ou à la bibliothèque, par la coulée verte. Et c'est important d'avoir des cheminements comme ça. On a la chance, la grande chance d'avoir encore en cœur de ville des espaces naturels. C'est assez exceptionnel. Alors, l'idée de cette coulée verte, c'est d'avoir un axe qui relie à terme les rives de Seine à la forêt de Montmorency. Donc, ça se fera dans le temps. Évidemment que c'est pas demain que ça va se terminer. Et d'avoir, c'est un axe, transversal, avec des ramifications qui vont aller en direction des autres villes, si on peut le faire.
Tout en respectant une certaine végétalisation,
absolument,
une biodiversité.
Bien sûr.
Voilà,
L'idée, c'est que cette coulée verte et ses annexes soient effectivement des relais entre les deux grands réservoirs de biodiversité que sont la Seine et la forêt de Montmorency.
C'est ça. Alors c'est peut-être l'occasion aussi de parler, c'est peut-être Madame Scolan qui va nous en parler, l'occasion de parler du BIP auquel vous vous êtes toujours opposé, mais j'imagine que c'est votre cas aussi, Monsieur Chabanel. Pour vous, c'était justement c'était la destruction de la végétation.
Oui, tout à fait. Le BIP est un outil qui a été pensé dans les années 1930. On peut comprendre, à l'époque, on a la vision voiture, puisque c'était le début, justement, de la commercialisation et les gens ne pensaient que se déplacer en voiture. Aujourd'hui, on pense autrement. Alors, moi, personnellement, je suis élue depuis 1989 sur cette commune en tant que toute jeune conseillère municipale. Et déjà à l'époque, le maire en place était contre, Monsieur Delalande, député maire. Et d'ailleurs, il y avait une association qu'on a favorisée à l'époque qui s'appelait l'Association de la Défense de la Côte, qui date de cette période-là. Et je ne comprends pas comment arriver à notre époque, on puisse encore imaginer de faire une autoroute deux fois deux voies sur cette côte magnifique de Montmorency, avec vue sur Paris, et puis ce réservoir aujourd'hui écologique, parce qu'en fait, ça a figé tout un secteur, et les gens aujourd'hui profitent et voient tout le bienfait, déjà, même si ce n'est pas aménagé. Donc, dans l'avenir, on se dit que ça pourra être une liaison pour nous, perpendiculaire à notre coulée verte, qui pourra nous donner accès directement à Montmorency, à Soisy d'un côté, de l'autre côté, Grolé, Sarcelles. Et ça permettra aux habitants de proximité de pouvoir se déplacer en toute liberté, à vélo, à pied, à patinette, tous ces nouveaux outils qui vont arriver,
qui font de partie de la circulation douce.
Mais oui, tout à fait.
Voilà. Mais alors, ce projet du BIP, il est définitivement abandonné ou ce n'est pas encore acté?
C'est le serpent de mer. Donc là, il ressort un peu de l'eau, si je puis dire. Par rapport surtout, alors il y a deux portions. Il y a le BIP Est qui est celui qui rejoindra l'aéroport de Paris à la Nationale 1, Et puis, il y a ce tronçon qu'on appelle central, qui va de la Nationale 1, enfin l'ancienne Nationale 1, jusqu'aujourd'hui, la ville de Soisy, à la sortie du BIP, que beaucoup de personnes...
Oui, qu'on connaît.
Voilà,
oui. Emploie. Mm-hmm.
Voilà. Donc, sur ce trajet-là, on a quatre maires qui sont concernés. Sur les quatre maires, il y en a trois qui sont contre et un qui est pour. Sur le tronçon est, pratiquement tous les élus sont pour, sauf le maire de Sarcelles, le nouveau maire de Sarcelles, qui se positionne plutôt contre.
D'accord.
Voilà.
Ah oui.
Donc la difficulté, c'est que chaque maire, finalement, a son avis par rapport à sa ville, même si on imagine qu'il faut qu'il y ait une continuité. Mmh. Hein, donc ça, c'est important. Sur l'est, les élus et les habitants jusqu'aujourd'hui, sauf les associations de défense et les habitants de proximité, sont pour. Donc,
Donc
c'est compliqué.
C'est compliqué.
C'est
oui.
compliqué.
Ça reste.
Et moi, ce que je demande, c'est que ça ne se politise pas, parce que si effectivement on a envie, de dire on est contre le BIP, il faut que ce soit un collectif à la fois association de défense et élus qui vont dans le même sens pour demander.
Complètement.
Donc aujourd'hui, petite information, à partir de jeudi dernier jusqu'au 19 juillet, la ville de Deuil a mis en place un référendum.
D'accord.
Pour demander aux habitants de venir se prononcer sur pour ou contre le BIP. Il y a juste deux bulletins pour ou contre. Et il y a deux urnes, une urne pour les Deuillois et une urne pour les hors communes.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Comme ça, tout le monde peut participer.
C'est ça. Parce qu'on me dit toujours, toi, t'es contre, mais est-ce que tes habitants sont contre?
Oui, 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 oui.
Donc aujourd'hui, oui, on pourra avoir des chiffres.
Complètement.
Pour pouvoir, effectivement, avoir une réponse claire.
Plus concrètement.
Voilà.
Monsieur Jabanel, ça irait à l'encontre, en plus, de la transition écologique que vous défendez.
Absolument, bien sûr. Ouais. Effectivement. Alors, l'idée, c'est de dire, on est contre le BIP, mais c'est de faire une contre-proposition verte.
Ouais,
c'est-à-dire que, l'idée de faire un vaste couloir vert, là encore, on a une chance magnifique d'avoir cet espace qui, très curieusement, l'épée de Damoclès du BIP a préservé cet espace.
Oui,
c'est assez étonnant.
Oui,
aujourd'hui,
ce qu'on
va développer, ce qu'on va faire, c'est faire de l'occupation. C'est-à-dire qu'un peu comme a fait Montmorency avec son parc qui est installé sur les emplacements du VIP, on va essayer de faire en sorte que les gens de Deuil connaissent mieux cette côte, parce qu'il y en a encore des gens qui ne la connaissent pas. Il y a un réseau de sentiers, il y a tout des cheminements intéressants à faire, et on a l'impression d'être vraiment très très loin de Paris quand certains endroits de ces sentiers.
Absolument,
par conséquent, je pense qu'il va falloir, on a quelques acquisitions de terrain que l'on fait nous-mêmes. Il y a toute une politique, si vous voulez, pour maintenant réfléchir à comment développer, faire connaître cette côte, faire connaître sa richesse à nos habitants.
Un mot, peut-être rapidement, mais un mot sur la ligne 19 à échéance 2040.
Alors ça, c'est plutôt Madame le maire qui
Madame
pourrait
répondre
là-dessus,
peut...
puisque c'est
d'accord.
un projet qui a été initié par le département. Donc...
D'accord, très bien. Alors juste ce que je voulais dire, Monsieur Chabanel, je crois aussi que dans vos projets de végétalisation, vous favorisez les jardins partagés.
Oui, bien sûr, les jardins ouvriers, les jardins partagés, c'est quelque chose qui... Alors, il y a à la fois de l'initiative privée, puisqu'il y a une grosse association de jardiniers sur la côte qui a près de 65 jardins, quand même, c'est très important. Et ils sont sur les emplacements du BIP, justement.
D'accord,
oui. Et il y en a d'autres. Et puis, nous avons, à l'occasion de la création de la coulée verte, déplacé des jardiniers d'une association des jardiniers de Pierrefitte. Nous l'avons transféré dans le Moutier un peu plus loin. Et c'est aujourd'hui la ville qui gère ces 15 jardins que nous avons aménagés de façon que ce soit quelque chose d'agréable, avec des cabanes toutes semblables, et de façon que ce soit aussi géré par la ville, de façon à visser un petit peu les choses. Quelquefois, ça déborde un petit peu. Donc, on ne veut pas avoir effectivement un spectacle affligeant, alors qu'on est sur le cheminement, un cheminement piéton important. Voilà.
Très bien, ben merci beaucoup. Et puis merci aussi de votre. On sent que vous êtes très attaché. Hein, cette.
Je vous en prie, monsieur. Je voudrais rajouter un mot sur la transition énergétique, qui est un domaine très important.
Oui, oui.
Puisque nous avons lancé un marché il y a 2 ans sur l'éclairage public. On transforme entièrement l'éclairage public, on passe tout en LED.
En LED, oui.
Hein, et on estime qu'au bout de dans les 6 ans, enfin maintenant 4 ans à venir, on fera plus de 70% d'économie d'énergie, ce qui est aujourd'hui
c'est
important.
C'est ce qui est énorme.
Et puis on lance un schéma directeur de l'énergie pour tous nos bâtiments publics, qui est important puisque ça va nous permettre à terme, d'essayer de programmer effectivement des transformations de nos bâtiments, dont certains sont des passoires énergétiques, comme la salle des fêtes.
Bien sûr.
Et petit à petit arriver à avoir un parc qui soit conforme à ce qu'on attend de bâtiments qui sont consommateurs d'énergie fossile aujourd'hui. Hein.
Oui, surtout compte tenu des hausses qu'il y a eu récemment dans cette énergie.
Bien sûr. Ça représente l'année dernière 1 million de plus de dépenses d'énergie.
Énorme,
c'est quand même considérable.
Nous, on l'a constaté aussi avec le pavillon de la radio où notre énergie a explosé. Merci infiniment, Monsieur Chabanel, pour votre témoignage. Je propose une nouvelle pause avant d'aborder tout ça. Ça se budgétise, hein, donc on va voir avec Monsieur Bertrand Dufoyer quelles sont ses manœuvres pour arriver à tous ces projets. À tout de suite. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
Toujours l'économie en direct. Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Ce matin, je reçois Madame Scolan, maire de Deuil-la-Barre, Monsieur Chabanel, adjoint délégué à l'environnement et à la transition énergétique, et Monsieur Bertrand Dufoyer, adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires scolaires. Alors, Monsieur Bertrand Dufoyer, je disais autant de missions qui sont budgétisées et que vous pouvez nous expliquer comment ce budget est orchestré.
Alors, en fait, pour pouvoir mettre en place tous ces services et tous ces investissements, il faut les alimenter par de la ressource, et oui. La ressource, c'est les recettes. Et les recettes aujourd'hui pour les communes sont principalement l'impôt qui est prélevé auprès des habitants des communes. Et les subventions qu'on peut obtenir des différents partenaires, et dans une moindre mesure, ce qui n'était pas le cas avant, des dotations de l'État. Si on remonte un peu dans l'histoire, lorsqu'on prend les finances de la ville en 2014, on a une ville qui a pris une décision forte, qui est celle de faire son programme de rénovation urbaine. C'était une opportunité. Mais ça a mis les finances de la ville dans des difficultés, et donc il a fallu reconsidérer tout le financement qui était lié à ces aspects, puisqu'en fait la commune a globalement intégré dans le programme de rénovation urbaine 20 millions d'euros, ce qui était à peu près 80% de son budget de fonctionnement à l'époque. Donc il a fallu lisser ces opérations, et en même temps Madame le maire a mis en place un certain nombre d'économies sur le fonctionnement. Et tout ça a fait, et on a, faut le reconnaître, augmenté l'impôt à cette époque-là, et tout ça a fait qu'on est ressorti en 2020 avec une situation beaucoup plus saine. Malheureusement, toujours sur le volet des recettes, les situations saines sont pas forcément stables, puisque aujourd'hui on voit des velléités finalement prendre sur les recettes, sur les recettes des commandes des communes.
Quand vous dites des velléités, c'est d'autres personnes de la.
En fait, aujourd'hui, on a des structurations de dotations qui ont évolué fortement après la mise en place en 2012-2016 de ce qu'on a appelé la contribution au redressement des finances publiques, donc sur la fonction hospitalière et la fonction territoriale. Un peu moins sur la fonction d'État, faut quand même le reconnaître. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui nous expliquent, par exemple, que la cantine pourrait être gratuite, ou d'autres éléments. Hein, c'est pas. Il y a d'autres éléments qui font qu'aujourd'hui, finalement, on a tendance à reporter des diminutions de recettes auprès des collectivités. C'est le cas aussi pour la CVAE, dont on discute en ce moment. Et là, c'est plutôt pour l'intercommunalité. Et donc, c'est ça que j'appelle des velléités. Et si on rentre dans ces sujets-là, nécessairement, ça va déséquilibrer les finances communales.
Je comprends. Alors c'est l'occasion, je me disais, parce que ça doit être aussi un gros budget, l'occasion de parler du passage à niveau qui va être modifié. Là aussi un projet qui date de très longtemps, Madame Scolan.
Oui, tout à fait. La fermeture du passage à niveau, on en parle depuis plus de 50 ans. C'est un exercice difficile parce que on ne peut pas passer en dessous du passage à niveau actuel. Oui. Y a trop de réseaux qui font que c'est impossible de passer ni en dessous ni au-dessus. Et donc, il a fallu imaginer une autre manière de faire, un circuit de déviation, notamment des véhicules roulants, pour pouvoir passer à un autre endroit, en tout cas, les voitures, les camions, les autobus. Passer à un autre endroit, ça voulait dire aussi, on a été amené à créer de nouvelles voiries sur le projet. Donc, le projet va se faire en plusieurs phases. Mmh. D'abord, premièrement, de constituer le passage sous voie futur, qui se trouvera un peu plus au sud par rapport au passage à niveau actuel. Et là, les habitants vont pouvoir, d'une certaine manière, voir quelque chose de concret, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, mais oui, finalement il n'y a rien qui se passe, donc c'est un peu frustrant. Nous allons avoir un pont rail qui va être construit à la Plante des Champs, précisément côté Montmagny, mais bon, c'est tout proche de Deuil. Ça va être un futur pont rail qui va être construit sur place. Et en 2025, au moment de l'ascension, on va interrompre complètement la circulation des trains, couper les rails et amener le pont rail à la place.
D'accord.
Et passage en dessous après qui va se faire.
C'est-à-dire trois jours intenses de travaux.
Quatre jours de travaux intenses. Donc ça va être certainement très intéressant,
oui,
à voir, même par rapport aux travaux, comment ça va se passer. Très spectaculaire en tout cas. Pendant le même temps, le département qui a pris en compte la réalisation des nouvelles voiries côté Montmagny, donc doit acheter les parcelles pour avoir du foncier. Et là, il y a 80 parcelles à acheter. Aujourd'hui, c'est en secteur en friche, donc secteur naturel. Donc, ce sont pas des achats très onéreux. Par contre, il faut identifier les propriétaires, des propriétaires qui parfois ont complètement oublié qu'ils ont un bout de terrain par là. Donc ça, c'est un travail qui est effectué par le département et qui est très long. Donc, on est à peu près, allez, à 30-40% des achats qui ont été effectués. Reste maintenant à aller jusqu'au bout et ensuite à concrétiser la voirie, bon, les travaux. Et puis enfin, au niveau du passage à niveau actuel, donc il y aura fermeture définitive, mais aussi création d'un petit passage pour les piétons, pour les vélos et pour les PMR, pour ne pas rompre finalement la liaison entre Deuil et Montmagny. Donc ça, ce sera la dernière phase des travaux qui va se faire. Et donc, aujourd'hui, on estime à 2027, courant 2027, la fermeture, la réalisation complète de ces travaux pour un coût estimé aujourd'hui à 50 millions d'euros.
D'accord.
Alors, voilà.
Pour et donc, qui se répartissent comment ces sommes
hein, oui, c'est, monsieur ça n'a pas été facile.
Monsieur Dufoyer.
Alors, ça montre bien qu'aujourd'hui, une commune ne peut pas fonctionner toute seule. Il y a effectivement une partie qui est liée à la SNCF, donc pour le réseau ferré. Il y a une partie qui a été apportée par l'État. Et il y a aussi, il faut bien le reconnaître, une situation qui a été décantée par le département qui s'investit, c'est le plus gros contributeur en fait du projet aujourd'hui sur cette suppression du passage à niveau. Et ça me permet de rebondir sur les différents partenaires. Effectivement, aujourd'hui, le département est le partenaire privilégié en termes d'investissement de la commune de Deuil-la-Barre et je pense de l'ensemble des communes du Val-d'Oise. C'est important de le dire. Quand on réalise des investissements aujourd'hui, il y a une grande partie qui est apportée par le département. À peu près à part égale, la région et l'État.
Oui.
Voilà, sur via les mécanismes dont dispose le préfet, et principalement la DSIL. Et puis on l'a un peu abordé tout à l'heure. Il y a aussi nos syndicats intercommunaux et il y a des réalisations qui ont eu lieu sur le stade d'Oeil-Anguin en cours de mandat là qui ont été donc financées à la fois par les Deuillois mais aussi par les Anguignans. Et puis on a sur ce que disait Madame Petitpas tout à l'heure sur la partie du stade du complexe Alain Mimoun, là on a 4 communes qui sont participants, donc la ville de Deuil bien entendu, Montmagny, Saint-Brice et Groslay. Et donc on voit bien que à partir d'un certain niveau d'investissement, on a l'obligation aujourd'hui de cofinancer cela avec d'autres. Et finalement pour le moment, ça marche plutôt bien.
Oui. Ça ne va pas alourdir le budget. Enfin, les.
Alors après, en fonctionnement.
Monsieur Chabamel me dit non.
Après, en fonctionnement, il y a des règles de fonctionnement et nécessairement, ça peut alourdir le budget de fonctionnement. Par exemple, quand on fait l'extension de l'école Poincaré, où on a forcément du fonctionnement qui sera
un peu. Ça revient à la ville de Deuil.
Évidemment.
En priorité, évidemment. Oui.
Ça sera aussi le cas pour le centre social qu'évoquait Madame le maire. Tout ça, c'est des équipements qui doivent être livrés d'ici la fin du mandat. Donc on voit bien qu'il a fallu restructurer nos finances, faire appel un peu aux Deuillois, faire appel un peu à l'impôt, faire appel à nos différents partenaires. Tout ça, c'est une mécanique financière qui permet aujourd'hui de garantir une certaine qualité de service.
C'est ça. Et dont on peut penser aussi qu'à terme, il y aura peut-être même un retour sur investissement, puisque ça va... améliorer la circulation, ça va favoriser peut-être la venue de d'autres personnes.
Oui. Vous parlez de la fermeture du passage.
Oui, la fermeture du passage.
Alors ça va.
Sa transformation en tout cas.
Oui. Alors ça va déjà apaiser certaines voiries dans Deuil qui sont notamment au centre-ville très étroites et pour lesquelles il y a beaucoup, dans lesquelles il y a beaucoup de circulation. Et les nouvelles. Alors on pense plan de circulation différent. Et aujourd'hui, si on ne raisonne que fermeture du passage à niveau et déviation, effectivement, tout est couvert par des financements extérieurs. Donc la ville de Deuil, la ville de Montmagny, on a réussi à faire en sorte qu'ils ne payent rien. Par contre, évidemment, il va y avoir toutes les voiries annexes qu'il va falloir remettre à niveau ou recréer des carrefours où là, effectivement, ça devra être porté par les collectivités de proximité.
Vous souhaitiez, Madame Scollin, parler aussi de cette ligne 19 dont vous pensez qu'elle est en lien aussi avec cette fermeture du passage à niveau.
Alors, en fait, le lien que j'en fais, c'est que l'idée à la fois de Madame Cavicchi et de Madame Pécresse, puisque en fait, elles sont toutes les deux à défendre ce projet-là, c'est de faire une voirie, enfin une ligne de métro enterrée qui rejoindrait l'aéroport de Paris à la Défense, en traversant le Val d'Oise dans sa partie sud. Et donc, l'idée, c'est de croiser les différentes lignes de chemin de fer qui, elles, sont orientées nord-sud, avec des arrêts, évidemment, au niveau de la ligne de métro, aux endroits où on va croiser les lignes de train. Alors, évidemment, la ville de Deuil est assez bien placée, puisque nous avons la chance d'avoir les deux bras de la ligne H. Et donc, d'une certaine façon, toutes les communes qui habitent au nord de la ville de Deuil pourraient s'arrêter et pouvoir emprunter cette ligne 19 à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a un lien entre la fermeture du passage à niveau, la ligne H et la ligne 19. Voilà.
C'est ça. Sachant que, comme je l'ai dit, la ligne 19, c'est à horizon 2040. Donc,
oui, tout à fait.
On a le temps de voir venir ce projet.
C'est vrai.
Mais alors du coup, Madame Scollin, il y a une question qui me vient forcément. Si vous dites que ces travaux, en tout cas je parle du passage à niveau, se terminent en 2027, vous allez peut-être avoir envie de voir la fin de ces travaux. Donc Oh bah, qu'en est-il de votre candidature à une nouvelle élection?
De toute façon, je verrai. Hein,
oui, vous verrez en tant que maire, bien sûr.
Oui, bien sûr. Écoutez, là-dessus, j'ai déjà un peu répondu à une question d'un de vos confrères, je crois, en disant que j'envisage éventuellement de pouvoir poursuivre et de laisser la main à un moment donné au cours du mandat suivant. C'est vrai que la fermeture du passage à niveau, c'est quand même quelque chose qu'on porte depuis 10 ans, voire même de 40 ans, j'ai envie de dire, et qu'on aimerait bien pouvoir assister à l'inauguration. Après, l'avenir nous dira si oui ou non, voilà, ça se passe comme ça, mais bon, voilà, on est en discussion de groupe, en tout cas, je prends jamais mes décisions toute seule.
J'ai bien compris.
Et en fait, ce que l'on vit, c'est long terme,
oui.
En fait, parce qu'il n'y a rien de pire que de l'instabilité. Mmh. On voit bien que dans certaines communes, quand il y a trop d'alternance au bout d'un moment, on est moins efficace. Et vraiment, nos collectivités territoriales ont besoin de continuité dans les projets. On n'a plus le droit de se tromper aujourd'hui. Quand on fait quelque chose, il faut vraiment que ce soit bien pensé en amont et à long terme, les répercussions. Donc ça, moi, je plébiscite en tout cas par rapport à ça.
Merci infiniment. On a encore quelques minutes. Un mandat, c'est fait de moments forts. Est-ce que vous voulez nous en partager un?
Les moments forts, j'en ai beaucoup, moi. Mais les moments forts, ce sont les moments que je partage avec des habitants ou des gens qui sont hébergés. Alors, je pense notamment à un moment qui m'a particulièrement marqué cette année. C'est le match de foot avec les amputés.
Oui.
Alors c'est pas en soi le match de foot parce que personnellement je suis pas très bon friande. Voilà, c'est ça. Mais c'est plus ils sont restés chez nous pendant 4 jours, donc c'est cet engagement de ces personnes, ce courage, les valeurs humaines qu'ils dégagent. Vous me reconnaissez par rapport à ça finalement, et vraiment c'est marquant, c'est de voir comment des gens qui se trouvent quand même démunis, hein, quand vous avez une jambe en moins du jour au lendemain quand c'est un accident, comment rebondir et comment être souriant, vivre pleinement la vie et parler de leur handicap tout à fait sereinement même le valoriser,
oui,
le handicap.
Complètement.
Et ça c'est forcément pour des gens qui ont leurs bras et leurs jambes, ça interpelle.
On peut pas l'imaginer.
C'est un moment fort. Oui, c'est ça.
Voilà. Merci beaucoup, Madame Scollin. On vous retrouve bien là dans votre amour de l'autre, hein, finalement, on
c'est
peut
ça.
Le dire. Hein, c'est complètement ça.
Ça.
Voilà, on approche de la fin de l'émission. Donc, j'ai l'habitude de redonner la parole quand même à mes invités avant de nous quitter. Donc, je vais peut-être commencer avec vous, Monsieur Chabanel, si j'ai oublié de vous poser une question ou une information.
Non, mais effectivement, il y a dans les travaux qu'on fait aujourd'hui, on tient compte, non seulement, il y a les normes, bien sûr, aujourd'hui, qui sont imposées, mais qui sont nécessaires. On tient compte aussi, on essaye d'aller au-delà des normes, notamment, là, dans le projet de l'école Poincaré, on va faire une cour Oasis, donc très agréable pour les enfants. Voilà, on essaye d'aller au-delà des normes et des voilà.
Complètement, et puis une façon de transmettre aux enfants idée de l'environnement.
Et ça va être le cas du centre social, puisque Madame le maire a souhaité que ça soit à proximité d'une zone verte
pour
que les personnes aient contact avec la nature, et ça c'est très important.
Oui, parce que vous avez la chance à Deuil de bénéficier d'endroits comme ça.
Voilà,
encore,
on a encore la chance d'avoir des espaces protégés, dont un au centre de la ville qui est protégé par une marguerite du Sdrif, donc c'est très important, et tant mieux, au moins on a des espaces aujourd'hui pour nos populations qu'il va falloir essayer d'aménager petit à petit pour leur permettre d'y accéder.
Très bien, merci Monsieur Chabanel. Monsieur Dufoyer, Bertrand Dufoyer, un mot avant de nous quitter?
Alors on n'a pas parlé des écoles.
Ah.
Eh oui, on n'a pas parlé des écoles, même si mon collègue vient d'en parler un petit peu, et du respect de l'autre. Le respect de l'autre dans le cadre des écoles, c'est surtout s'organiser autour d'une communauté éducative, donc avec les enseignants, les parents, les enfants, les personnels de la ville et faire vivre tout ça pour aller justement dans le bon vivre ensemble. Et puis juste un petit point, une interrogation. L'IA aujourd'hui est en train de prendre des proportions assez ouais. importantes et il y a des premiers travaux qui sortent en termes de perspectives dans le cadre des procédures éducatives et on va s'y atteler, on va regarder ça pour l'instant en veille scientifique, on va dire ça, mais il est fort possible que ça prenne le même essor que ce qu'on a connu avec les tableaux numériques par exemple.
Complètement, oui. Donc toujours être à la pointe du progrès et puis de pour aller vers l'autre, encore une fois.
Des meilleurs usages.
Des meilleurs usages. Merci, Bertrand Dufoyer. Madame Scolan, Muriel, oui. un mot de conclusion avant de nous quitter.
Eh bien, écoutez, en tout cas, gérer une commune, c'est aussi essayer d'être un peu terre d'innovation, c'est-à-dire de toujours s'interroger que va-t-on devenir ? Comment on peut accompagner tous les habitants de la ville vers ces changements ? Et notamment, on a parlé du centre social. J'ai beaucoup travaillé avec la Fédération des centres sociaux pour leur faire admettre qu'un centre social en pied d'immeuble, c'est plus d'actualité. Mmh. Que maintenant, si on veut lutter contre la fracture écologique, c'est une autre fracture qui risque de se créer. Eh bien, en fait, il faut mettre les centres sociaux en pleine nature pour apprendre tous ensemble à respecter cette nature. Voilà. Donc.
Et vous avez réussi.
Et on a réussi.
Encore une fois.
Oui. Bien. Bon.
Bravo. Bah, écoutez, je vous félicite hein, pour toutes ces innovations et puis ce fil rouge que vous gardez de oui. voilà le bien vivre ensemble, l'inclusion et toujours le bon sens.
Voilà.
Merci à vous infiniment. Surtout.
Merci. Ce fut très agréable. Merci beaucoup, madame.
Merci infiniment à tous les quatre. Hein. Madame Petitpas nous a quittés. Mais on a bien senti hein, son enthousiasme aussi à s'occuper de la flamme. Merci pour ces témoignages passionnants dont on comprend hein, pourquoi il est dit qu'être maire, c'est un des plus beaux des mandats. Oui. Plusieurs maires me l'ont dit et donc vous nous l'avez bien fait sentir aujourd'hui. Mmh. Merci infiniment. Beaucoup. Alors peut-être rendez-vous en 2026, madame Scolan.
Nous en reparlerons.
J'aurai peut-être l'occasion de vous recevoir si vous êtes candidate. Merci en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci Francky pour la technique. Merci Alban qui a participé à l'émission en observateur. Merci à vous tous qui nous suivez pour votre fidélité. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Une émission que vous pourrez retrouver à tout moment avec son podcast sur idfm98.fr.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
7 juillet, ce sont les élections législatives et faut-il le rappeler, voter est un droit, un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants à l'occasion d'un scrutin démocratique. Alors surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Moi, je vous dis à très vite et pour une prochaine émission. Au revoir.